Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant. L'autre.
Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Seb, t'as donc bien baissé le son du thème vite. Ça me... Merci, j'aime ça quand c'est fort. On commence l'émission. J'ai de la misère à pas vous parler de la neige. Là. Je m'étais juré de ne pas. Pour vrai, je m'étais dit, ah, c'est pas vrai là, que je commence en parlant de ça. Mais ça me... Ah, merci. Let it snow, let it snow, let it snow. Je suis sûre que tous les animateurs l'ont fait avant moi. Je suis pas originale. Non! Yes! C'est moi qui commence avec une petite chanson de Noël. Dans mon entrée ce matin, mes sandales, littéralement, et mes bas d'hiver qui sont remontés des catacombes du sous-sol pour pouvoir fonctionner aujourd'hui. La tempête de neige du 21 avril, elle nous tentait pas. Dans le contexte, là, puis ça arrive un peu souvent quand même qu'on a une bordée au mois d'avril, mais là, si tardivement, le 21, ça fait longtemps que c'était pas arrivé au Québec. Moi, je me rappelle d'un épisode, pour vrai, là, quand j'étais petite, j'allais à la pêche avec mes parents et au mois de juin, un 24 juin, sur les Monts Valin, il a neigé. Il a neigé des flocons de neige. Évidemment, ils restaient pas au sol, les flocons de neige, mais ça m'avait marqué. Donc, on peut s'en passer de la neige et j'espère qu'elle va fondre très vite parce que c'est déprimant sur un moyen temps. Aujourd'hui, à l'émission, évidemment, on va revenir sur ce verdict de culpabilité qui concerne Derek Chauvin, ce policier qui a été trouvé coupable du meurtre de George Floyd. C'était super touchant hier là, quand la décision est tombée. Il était reconnu coupable sur toute la ligne, les trois chefs d'accusation. De voir les réactions sur les médias sociaux, les vidéos des gens qui étaient là, ça se passait beaucoup sur Twitter, sur Instagram, là, les personnes qui s'étaient massées devant l'endroit où avait lieu ce procès-là, cette décision-là, partageaient leurs impressions vraiment en direct, la façon dont ils se sentaient. C'était pour vrai, c'est vraiment touchant. Puis moi, il y a un truc que je savais pas, puis peut-être que je suis pas la seule, c'est ce que je me suis dit, c'est que c'était... une petite fille de 17 ans, ben une jeune fille de 17 ans qui avait filmé l'altercation entre le policier Derek Chauvin, l'ex-policier devrais-je dire, et George Floyd, vidéo de 9 minutes là qu'on a, c'est la vidéo qu'on a regardé malheureusement trop souvent tout le monde là, ça fait mal au cœur à chaque fois là, puis à un moment donné je me dis à quel point il faut que les médias continuent à le rouler. C'est-tu encore de l'information rendue là, mais je pense qu'en même temps faut voir qu'est-ce qui s'est passé, faut pas l'oublier. Les policiers aussi portaient des caméras là sur eux. On s'est servi d'ailleurs de ces vidéos-là pendant le procès. Mais on va revenir sur tout ça avec Ali Nestor, qui est fondateur des Princes et Princesses de la rue, un peu plus tard à l'émission. Et on va parler aussi avec Fabien Major, qui est planif financier. Toute une histoire qui concerne la crypto-monnaie, le Bitcoin. Puis c'est plate parce que souvent, ces monnaies-là ont mauvaise réputation. Et là, il semblerait qu'il y a des jeunes investisseurs qui ont été floués. Une histoire digne de Wolf of Wall Street, on dirait, là, assez rocambolesque. On va essayer de démêler tout ça parce que la crypto-monnaie, on parlait l'autre fois avec une firme d'investissement là, qui mise un peu là-dessus. T'sais, ça va devenir de plus en plus « mainstream », entre guillemets, de plus en plus sécuritaire aussi d'investir là-dedans. Ça va se démocratiser. C'est déjà en train de se faire, mais là, on est comme, en tout cas, j'ai l'impression, dans une période d'entre-deux où c'est encore cool là, pour certaines personnes avant-gardistes, si on veut, au niveau de l'investissement, d'investir là-dedans. Mais monsieur, madame, tout le monde commence à s'intéresser à tout ça, là, à la crypto-monnaie. Mais c'est clair que quand on voit des histoires comme ça circuler, des gens qui sont floués, des gens qui ont perdu d'importantes sommes d'argent, ben ça demeure quand même inquiétant. On sait que ce sont des titres, si on veut, qui sont volatiles, hein, qui sont basés beaucoup sur la spéculation. Donc, on va parler de tout ça avec monsieur Major tantôt. Bon, parlons un peu COVID, bien évidemment. Hein? On est rendu habitué. D'ailleurs, l'autre fois, je me disais, ça va être un peu bizarre quand on va être sorti tout ça, de revenir à la programmation régulière. C'est-à-dire des émissions où la COVID ne sera plus en vedette majoritairement. Là, ça va être un sentiment d'inquiétante étrangeté, mais j'ai l'impression que ça va prendre encore un bout avant que ça arrive. Montée des cas quand même aujourd'hui, pas majeure, là, mais tout de même, on est rendu mercredi. Là, c'est toujours un peu ça. Quand on est au milieu de la semaine, on dirait que les gens vont davantage se faire tester. Les gens ont peut-être répondu aussi à l'appel du premier ministre d'y aller. 217 cas, 6 décès, 22 hospitalisations et une personne de plus aux soins intensifs. intensif. Puis peut-être vous trouvez ça tannant là, que je vous le dise à chaque début d'émission, mais je trouve ça important. Pas perdre ça de vue. Pas perdre de vue qu'il y a des gens qui sont hospitalisés, qu'il y a des gens aux soins intensifs, puis que ça existe pour vrai et qu'il faut aller se faire vacciner. Et là, parlant de vaccination, clairement, là, il y a un engouement chez les 45 ans et plus. C'était la folie. Littéralement, peut-être moi au stade olympique, là, j'entendais ce matin, là, en tout cas de bonne heure, il n'y avait pas grand monde dans la file. Peut-être que la situation a évolué au cours de la journée. Mais au niveau de la prise de rendez-vous, quand même, là, ça s'est rempli très, très, très rapidement. Et ça continue là, vraiment. Ça aussi, on voit, hier, il y avait deux choses sur les médias sociaux. Il y avait les réactions par rapport au verdict de culpabilité de Derek Chauvin et il y avait des gens de 45 ans et plus qui se photographiait en train de se faire vacciner hier soir. Et ça continue encore aujourd'hui. La vaccination, on le sait, là, ça a été un sujet quand même assez épineux. Ça continue d'être un sujet épineux. Puis il y a toute une question d'éthique puis de politique autour de la vaccination. Puis j'avais bien envie qu'on parle avec Marc-André Gagnon, qui est spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université de Carleton. Marc-André, là, salut.
Bonjour.
Oui, parce que là, on parle de la vaccination, là, on se fait vacciner, c'est commencé, ça va bien, mais il reste quand même des points aveugles. Là, le gouvernement a remis son budget, son premier budget COVID. Là, Chrystia Freeland a présenté tout ça, là, 860 pages. Et on a appris là-dedans que le Canada avait dépensé beaucoup plus qu'on l'aurait cru. C'était difficile d'avoir des réponses là, par rapport à combien on avait payé pour les vaccins. Là, ce qu'on apprend dans le budget, c'est qu'on aurait dépensé 9 milliards de dollars pour acheter des vaccins contre la COVID-19. C'est 9 fois plus que ce qui était affirmé là, par le gouvernement il y a quelques mois. Donc, c'est quand même une découverte choquante, en tout cas pour les contribuables. En même temps, on comprend qu'on avait besoin du vaccin, qu'on était dans l'urgence. On n'avait pas le choix d'en acheter. Mais comment, Marc-André Gagnon, on explique une telle somme? Est-ce que c'est le jeu du au plus fort la poche dont on s'était parlé un peu là, quand vous êtes venu à l'émission?
Mm-hmm. Ben, en fait, je regrette que vous me demandiez la question à moi, mais je le sais pas plus.
Vous êtes spécialiste de la politique vaccinale.
Mais c'est ça, c'est le problème que le marché des vaccins actuellement, ouais. C'est-à-dire que tout se fait de manière confidentielle, tous les contrats d'approvisionnement restent confidentiels, on peut pas avoir les détails. Lorsqu'on a certains détails, les chiffres sont cachés. On a eu certains chiffres qui avaient été donnés à un moment donné, des montants globaux qui avaient été payés, on savait pas trop pourquoi, de quelle façon. Et là, effectivement, on voit dans le budget qui est sorti, et c'était pas des nouvelles sommes qui étaient annoncées, simplement on dit, ah, mais jusqu'à présent, en passant, on a payé 9 oui. milliards de dollars.
C'est dans 844 pages, ça peut peut-être passer free, on sait pas.
Et là, c'est, ah bon, ben, on savait pas, Je suis pas tellement surpris. Il faut comprendre, 9 milliards, ça peut paraître beaucoup. C'est juste que le Canada, on a fait aussi énormément d'achats. Fait que c'est des contrats d'approvisionnement à terme. Donc, jusqu'à présent, on a en fait sécurisé pour 500% des doses nécessaires pour vacciner à deux reprises l'ensemble de la population canadienne. Donc, à ce niveau-là, le 9 milliards représente en fait l'achat de 5 fois les besoins du Canada.
Oui, bien ça, on va en reparler de ça, là, des pays qui achètent au-delà de leurs besoins. Mais avant, est-ce qu'on a payé ce prix-là parce qu'on s'est pris trop tard? Puis, tu sais, on a appris aussi qu'on avait payé vraiment plus cher que d'autres pays pour avoir AstraZeneca. Pourquoi?
Non, ben là, je pense pas qu'on s'est fait avoir. Là. Grosso modo, chaque firme a annoncé le prix officiel de son vaccin.
Okay.
Et les contrats d'approvisionnement se sont négociés à partir de ces prix-là. Là, faut comprendre, les contrats d'approvisionnement étaient négociés de manière confidentielle, mais ce qui était négocié de manière confidentielle, c'est des rabais confidentiels.
Okay.
Donc, chaque pays a pu obtenir des rabais en dessous du prix officiel, mais normalement, puis là, évidemment, ben, ça reste complètement confidentiel, mais normalement, dans ce type de contrat-là, on va pas payer davantage que le prix officiel.
OK, bon, mais c'est bien, là, parce que de l'extérieur, ça peut avoir l'air un peu comme si on s'était fait avoir, donc je suis contente qu'on le précise aujourd'hui puis que les choses soient claires. Abordons la question de la vaccination, là, l'accès à la vaccination pour l'ensemble de la planète. Le premier ministre Legault qui n'arrête pas de répéter que la vaccination, c'est notre passeport vers la liberté. OK, mais plusieurs experts ont dit il y a quelques jours, je pense que c'était la semaine passée ou l'autre d'avant, qu'avec les variants, si on vaccine vaccine pas plus à l'échelle mondiale, on sera pas aussi protégé qu'on pourrait le penser. Faut vacciner tous les pays. Il y a 130 pays en ce moment, là, Marc-André, qui ont toujours pas eu accès à une seule dose du vaccin, là.
Ben exactement. Là, on parle, on a environ plus d'une centaine de pays qui a reçu l'équivalent de 0,2% de l'ensemble des vaccins. Alors que les pays riches, on a reçu jusqu'à présent 82% de l'ensemble des vaccins. Le problème, c'est qu'on aura beau vacciner l'ensemble des pays riches, tant et aussi longtemps que l'épidémie se poursuit, qu'il y a toujours une propagation, ben en fait, il y a aussi des variations. Le nouveau mutant en Inde en ce moment, ce sera une espèce de double mutant, donc qui sera encore plus dangereux.
C'est un film d'horreur.
À ce niveau-là, effectivement, là, faut comprendre, là, le chacun pour soi, puis agir tout seul de son côté, ce n'est pas suffisant. Et en fait, là, ce qu'on découvre, c'est à cause des mutants. La semaine dernière, Pfizer a annoncé, ben écoutez, il va falloir une troisième dose de notre vaccin pour qu'il soit réellement efficace.
Oui, puis se faire vacciner chaque année par la suite.
Exactement, mais là, en ce moment, on avait des pays à faible revenu.
Ouais.
Là, on prévoyait que l'ensemble de la population serait vaccinée en 2024. Mais là, si on doit refaire de la vaccination dans les pays riches, ben on est encore en train de pousser vers l'avenir quand est-ce que les pays pauvres vont être entièrement vaccinés. Donc, cette problématique-là... Puis là, faut comprendre aussi une autre dynamique qui est bien importante dans tout ça, puis c'est un des grands enjeux en ce moment, c'est que on a des capacités de production de vaccins à l'échelle globale, et particulièrement au Canada en ce moment, qui sont disponibles et qui ne sont pas utilisées. On a aussi des capacités d'augmenter les capacités manufacturières pour produire des vaccins. L'annonce qu'on a eue en janvier, le Canada a dit, ben écoutez, on va financer la mise en place de nouvelles infrastructures pour le Conseil national de recherche du Canada. Fait qu'on va partir de rien, on va construire les infrastructures, on va les faire autoriser et d'ici un an, ça va être fonctionnel, ça va commencer à produire. Fait que là, faut comprendre, la question des vaccins, c'est pas chacun reçoit nos deux vaccins, puis le problème est fini. Là, il risque d'avoir des variants qui vont exiger effectivement des rappels, si on veut.
Ouais.
Et il va falloir continuer à vacciner les plus jeunes, les nouvelles générations. Fait que ça, c'est pour les prochaines années.
Mais c'est fou quand même, Marc-André, parce qu'au départ, là, tout le monde voulait partager les vaccins. Quand on a appris là, que Justin Trudeau avait souscrit au programme COVAX, puis on a appris ça environ au même moment où on est en train de se rendre compte que la vaccination au Canada, ça tournait peut-être pas si bien que ça. Là, c'est-à-dire qu'on était déçus par rapport à la façon dont on avait accès aux vaccins. Le délai, ça a choqué les gens. Ça a choqué vraiment les gens. Puis en même temps, le Canada s'est fait critiquer parce que on a utilisé des vaccins qui étaient destinés au programme COVAX pour nous-mêmes, tu sais.
Ben, en fait, là, il faut comprendre, au départ, on avait, avant le COVAX, on a eu autre chose qui s'appelait le CTAP, le COVID-19 Technology Access Pool, qui était une espèce de, ce qu'on appelle un pool de brevets, c'est-à-dire une mise en commun des brevets, des connaissances, un partage de savoir technologique, de l'expertise scientifique, pour mieux faire progresser la science pour le vaccin contre la COVID, et permettre ensuite que chacun puisse recourir à cette expertise-là et l'utiliser dans son pays pour mettre en place la production vaccinale. Et donc, cette initiative de l'OMS, en fait, était super intéressante. De décembre 2019 à avril 2019, toute la science a fonctionné avec ce type de collaboration, d'échange des données et tout. Et là, les firmes ont dit non, ça, on refuse de faire ça. Les grandes firmes ont décidé, nous, on va fonctionner en silo, on va retourner à une science propriétaire basée sur les brevets, basée sur les monopoles. On fonctionne en silo pour nous-mêmes. Et ensuite, c'est nous qui va décider de quelle façon on produit et on distribue. D'où la raison pourquoi on se retrouve dans cette espèce de situation de nationalisme vaccinal.
Ouais.
Mais là, chaque pays, on n'a pas accès aux produits. Mis à part, faut cogner à la porte de la firme, se mettre en file, puis attendre qu'on daigne nous accorder
C'est
des
ça.
Doses.
Puis ce que je veux que les gens qui nous écoutent comprennent, là, parce que c'est normal de vouloir se protéger en premier, c'est un réflexe humain. Tout le monde est un peu en panique en ce moment. Les pays où ils font pas exception à tout ça, ils veulent protéger leur population. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que si on se protège juste nous autres, ça marche pas. T'sais, notre protection va devenir caduque. C'est ça que les gens faut se rentrer dans la tête. Puis il faut se dire à un moment donné que les vaccins, est-ce qu'on devrait les considérer comme quelque chose de public? C'est un bien public mondial.
Mais tout à fait. C'est-à-dire que ça, c'est un problème qu'il faut penser en termes, on dirait cosmopolite, mais en termes global, là, grosso modo. On parle de santé publique globale d'abord et avant tout. Mais au niveau des vaccins, pour moi, la question, c'est aussi, on a des capacités de production vaccinale. Oui. On pense à la compagnie PNUVAX à Montréal. Ça fait des mois qu'ils disent, nous, on a des capacités de production en vaccins qui sont disponibles. Et on n'a aucune aide pour nous aider à mettre ça de l'avant. On peut pas obtenir une entente de licence avec les grandes compagnies pour qu'elles nous permettent de produire le vaccin. On a une autre compagnie, Providence Therapeutics, qui, même chose, là, se met à produire le vaccin et a déjà fait des contrats avec des pays étrangers, mais il n'y a eu aucune aide du Canada pour l'aider à développer sa capacité de production vaccinale, et elle a dû faire ça en contournant les droits de brevet, en fait, et encore là, elles sont pas en mesure légalement de commencer la production pour des raisons administratives légales.
Ça, c'en est une vraie aberration, là.
Et on a une troisième firme, on a Biolis Pharma, qui est à St. Catharines, en Ontario, qui... En fait, cette semaine, il y a des rumeurs qu'un pays demanderait l'accès à une espèce de le régime canadien d'accès aux médicaments, c'est-à-dire un système de licence obligatoire, là, je passe les détails, mais pour qui fait en sorte qu'un pays pauvre qui n'a pas de possibilité de production en cas d'urgence sanitaire puisse recourir à l'aide du Canada pour obtenir l'accès à certains produits sanitaires, incluant les vaccins. Et là, il y a Biolis Pharma qui est prête à produire ça à travers ce régime canadien d'accès aux médicaments. Mais actuellement, le Canada refuse de mettre sous, excusez-le, je rentre dans les détails techniques, mais de mettre sous l'annexe 1 de la loi sur les brevets, mais grosso modo, de faire accepter les produits contre la COVID comme des produits pour lesquels on peut recourir à des licences obligatoires en cas d'urgence sanitaire. Donc, là, si on se retrouve, on a des capacités de production qui existent. On n'a pas besoin de les construire, puis elles vont être prêtes l'année prochaine.
Puis d'être dépendant d'autres personnes. On a ça chez nous, puis on le fait pas, puis on n'avance pas, puis on est pogné dans la bureaucratie. C'est ce que je comprends.
Mais cette bureaucratie-là, c'est d'abord et avant tout les droits de propriété intellectuelle par les grandes firmes qui... Et tout fonctionnerait bien si les firmes avaient voulaient activement négocier avec des plus petits fabricants pour que eux puissent mettre de l'avant la nouvelle technologie de production et produire eux aussi des vaccins, donc tout le monde participe à l'effort de guerre. Mais non, avec la propriété intellectuelle, les grandes firmes, leur capacité de dépend de leur capacité à maintenir un contrôle sur cette
technologie-là. C'est toujours cette espèce de course au profit qui est en train de l'emporter. C'est assez dramatique et c'est assez non éthique aussi. Marc-André Gagnon, merci, qui est spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université Carleton.